De l'année 2024.
Oui, année 2024 qui a été foisonnante d'actualité. Je te dirais, j'ai été impressionnée là, en faisant le tour de l'année, tout ce qui s'est passé. C'est assez impressionnant. Dans le quotidien, on oublie, on flush vite, comme dirait l'autre, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Je commence avec le fédéral. D'abord, au niveau politique, la montée en force des conservateurs là, partout au pays, même si Pierre Poilievre a fait quelques bourdes ou s'est associé avec différents personnages, ça n'a pas eu d'impact sur les sondages. Il y a eu une tentative de putsch aussi de Justin Trudeau à l'automne quand même, puis ça a tombé à l'eau. Là, les tactiques étaient plus ou moins
appropriées.
Adéquates, appropriées. Peut-être un point positif, je dirais que Justin Trudeau a quand même fait un exploit de maintenir un gouvernement minoritaire pendant 4 ans, parce que là, on s'en va vers la 4e année de son mandat, puis on voit pas le jour où il y aura le déclenchement des élections nécessairement, donc c'est un exploit en soi. Autre point positif pour Justin Trudeau, ben c'est d'avoir réussi à aller souper avec Donald Trump quelques jours après son élection.
Ouais.
Donc, je trouve ça intéressant parce que ça positionne le Canada dans le contexte où Donald Trump veut imposer des barrières tarifaires. Donc,
bien qu'on se demande encore les réelles répercussions de ce souper-là, là.
Ben, c'est pas, non, il y avait pas besoin d'avoir des répercussions. Le monsieur, il est même pas encore nommé officiellement.
Ouais.
C'est une stratégie là, diplomatique quand même qui va avoir des répercussions sur les relations une fois qu'il sera nommé. Donc, c'est ça qu'il fallait faire. Là. C'est comme de prendre un coup d'avance aux échecs. C'est vraiment le même principe. Fait que c'est pas nécessairement, fallait pas là, penser avoir des gains là. C'était juste de dire, OK, on s'en va dans l'informel un peu plus. Mais après, faut qu'il en découle des choses dans les mois à venir. Ça, t'as raison. Au niveau provincial, il y a d'abord la course à la chefferie libérale qui est lancée avec uniquement des hommes sur la ligne de départ. Même les femmes qui avaient vraiment de l'avenir au sein du parti ont annoncé qu'elles quittaient. Donc, ça aussi, le Marois Risky, entre autres. Au niveau de Québec solidaire, là, une désignation de la co-chef Ruba Gazal qui a été complètement ratée là, par l'affaire Haroun Boisy. Je pense que c'est le plus gros événement, le plus gros ratage de l'année, c'est celui-là, clairement, en tout cas pour moi. Ensuite, ben, il y a le Parti québécois là, qui, lui, augmente sans cesse dans les sondages, malgré le fait qu'il soit seulement 4 à l'Assemblée nationale. C'est quand même un exploit en soi, c'est assez impressionnant. Au niveau de la coalition Avenir Québec, ben, la dégringolade est toujours très présente en 2024. Ça avait commencé en 2023. C'est comme si la CAQ a toujours pas trouvé sa boussole. Le premier ministre le mentionnait à la fin de l'année. Puis ouais, c'est ça, la batterie de la boussole est peut-être tombée à plat. D'ailleurs, parlant de batterie, il y a eu le départ fracassant de Pierre Fitzgibbon, de Youri Chassin et d'Éric Lefebvre en 2024. C'est pas rien. Pierre Fitzgibbon, le super ministre sur qui le gouvernement comptait beaucoup, a quitté ses fonctions. Donc, ça aussi, c'est des événements marquants, ce qui va nous amener en 2025 vers une élection partielle dans Terrebonne. Le gouvernement en place a jusqu'au mois de mars, selon la loi électorale, pour déclencher ces élections. Ensuite, ben, un des dossiers là, qui appartient à la CAQ est clairement le retour en force du troisième lien. Là, c'est un dossier fort qui a été ramené après l'avoir éliminé en 2023. Là, on l'a ramené, on sait ce que ça fait. Ça a été quand même, je pense, un peu positif, mais ça n'a pas paru d'un sondage, du moins pour la coalition américaine.
C'est comme si on ne les croyait plus.
Ouais, c'est ça. Ça augmentait un petit peu le cynisme dans la population. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça que ça a eu comme impact, malheureusement, même si le projet est sûrement fondé, puis il y a une valeur, ce projet-là, mais les allers-retours, à un moment donné, il y a une limite à faire ça, là, malgré... Des fois, certains actes d'humilité, ça peut coûter cher, des fois, de faire des allers-retours comme ils l'ont fait. Je veux nommer là, certains dossiers qui ont marqué le Québec en 2024, au-delà des partis politiques. Là. Il y a eu la montée, puis la chute de Northvolt. Je pense que c'est un des dossiers marquants parce qu'on a annoncé en grande pompe au début de l'année là, les investissements dans ce projet-là. Puis on annonce, ensuite, ben, c'est pas une annonce, c'est la réalité les a rattrapés rapidement puisque Northvolt est en faillite technique là, dans le pays d'origine, en Suède. Donc, est-ce que c'est un investissement prématuré ou une mauvaise affaire pour le Québec? Là, les prochains mois, années vont nous le dire. Beaucoup parlent d'investissement prématuré, qu'on n'est pas rendu là au niveau technologie. C'est possible. Faut voir si on sera capable, en restant dans le projet, de maintenir le cap et de faire un jour des sous avec ça au Québec. D'autres dossiers qui ont été bien marquants, là, Kevin, pour moi, c'est les écoles à Montréal, là, où on a découvert là, tout le harcèlement qu'il y avait par rapport à la religion, la mauvaise foi de certains professeurs de ne pas vouloir enseigner les cours de sexualité. Ouais.
Et ça, dans ce cas-ci, on a l'impression que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça pourrait revenir dans l'actualité en 2025. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en apprendre là-dessus.
C'est là que je m'en allais, exactement. C'est évident qu'on va en entendre parler parce que là, il y a eu la semaine dernière aussi une lettre de 60 profs de cégep pour dire qu'il y avait la même chose qui se passait au niveau cégep. Il y a d'autres écoles là, qui ont dénoncé des situations similaires. Donc, puis le premier ministre a aussi annoncé cette volonté là de encore d'aller plus loin dans la loi sur la laïcité. Donc, ça parle beaucoup sur ce qui va s'en venir en 2025. T'as raison. Histoire de la direction de la protection de la jeunesse, où il y a eu 9 éducatrices là, qui auraient abusé des jeunes dans un centre fermé. Cet événement dénoncé par la presse a entraîné d'autres dénonciations d'événements similaires partout. Ça a été beaucoup là, dans l'actualité, la DPJ, cette année. Puis ça touche encore les jeunes. C'est les jeunes là, au niveau qui vivent des situations plus difficiles, qui sont touchés dans l'autre, c'était dans les écoles. C'est important là, ce qui se passe là. Puis la DPJ, ça fait longtemps qu'on sait que ça va pas bien depuis qu'il y a eu la réforme Barrette. Fait qu'imagine, ça fait un certain temps. Puis on n'a rien fait parce qu'on garde les fonds tout centralisés vers l'urgence, vers les hôpitaux. Donc, c'est souvent là, les jeunes en difficulté qui en souffrent. Puis là, ben, on a eu la preuve, ça a éclaté cette année. Donc, moi, je suis contente de cette situation parce que ça va nous amener plus loin, puis il le faut pour les jeunes qui ont des besoins.
Et ce qu'il y a de troublant, c'est que même ici, dans le Bas-Saint-Laurent, parce qu'on a sorti les données la semaine passée, on n'est pas épargné par ce genre de situation-là aussi. Donc, c'est frustrant, c'est choquant, en espérant qu'on soit en mesure de freiner tout ça en 2025 et dans les prochaines années aussi.
Oui, il est grand temps qu'on prenne un virage là, innovant dans ce secteur-là. Puis effectivement, ça touche toutes les régions. J'ai vu Chaudière-Appalaches aussi, les données.
Oui.
C'est ça, c'est vraiment partout. Là. Fait que c'est pas juste Montréal. L'autre élément ben, qui est toujours dans la même foulée, c'est la création de Santé Québec, hein, qui a déjà donné le droit au gouvernement de chialer la semaine dernière. Fait que tu sais, on n'est pas plus avancé. Puis j'entendais Patrick Lagacé en parler tout à l'heure, là. C'est ça, là. Faut que ça soit positif. Puis là, ben, en ce moment, on va voir ce que ça va donner. Ça date du 1er décembre, mais c'est un élément marquant de 2024 sans hésiter. Autre élément, ben, il y a la réforme du droit de la famille. On en a plus ou moins parlé, mais c'est quand même la réforme la plus importante depuis les années 80. Donc, ça aussi, c'est un excellent point de 2024, je trouve, qui va dans la même foulée des dossiers dont on parle. Ensuite, ben, l'entente historique la semaine dernière entre Terre-Neuve, Labrador et Québec concernant l'hydroélectricité, ça aussi, ça augmente les possibilités de développement, ça nous assure un avenir au niveau hydroélectrique. On est dans les seuls au monde à faire ce genre d'énergie renouvelable. Donc, c'est très positif ce qui est arrivé la semaine dernière. Ensuite, ben, la loi sur la violence envers les élus, avec les élections municipales qui arrivent à grands pas en 2025, ça amène cet élément-là où on va voir si ça a un impact. Est-ce que la loi va pouvoir être mise en fonction avec les élections qui approchent?
Ouais.
C'est une question que je me pose.
C'est une bonne question.
On va pouvoir la tester. Ensuite, ben, pour moi, le dossier le plus marquant de l'année là, 2024, c'est clairement la crise de l'itinérance qui s'est généralisée partout au Québec puis qui est comme incontrôlable, on dirait. T'sais, on dirait qu'on entend les histoires là, de chaque ville, de chaque personne, de toute... puis tu sais, c'est toute situation humaine confondue, il y a plusieurs personnes. Maintenant, l'itinérance a plusieurs visages. Je pense qu'on l'a vu beaucoup cette année. Pour moi, c'est le dossier marquant de 2024. Puis on va devoir accélérer le pas là, dans c'est quand même inquiétant ce qui se passe avec l'augmentation de l'itinérance là, sur tout le territoire du Québec.
Et ce que te plate, c'est que j'ai l'impression, Marie-Ève, que ce point-là sur l'itinérance, tu l'as apporté dans ton bilan également de l'année 2023. Parce qu'à ce moment-là, souviens-toi, on parlait beaucoup de Rimouski, puis on sentait que ça s'en venait partout au Québec. Et là, ça s'accentue. Puis on a l'impression qu'on a un peu perdu le contrôle concernant le dossier de l'itinérance.
Puis je suis à la même place que toi. Moi aussi, j'ai ce sentiment qu'on a perdu le contrôle. Il y a Gatineau qui se démarque avec ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le problème à bras-le-corps. Ils ont fait dans la cour de l'aréna Robert-Gartin, une ancienne aréna, dans le fond, là, un village avec des habitations, là, puis des lieux où les gens peuvent venir s'établir, manger, tout ça. Donc, ils ont comme mis des endroits pour accueillir les itinérants plutôt que de pas les voir. Fait que ça aussi, il va y avoir aussi des belles initiatives. Je lisais en fin de semaine aussi à Val-d'Or un autre modèle. Fait qu'il y a des initiatives qui se passent dans différentes villes qu'on n'aurait pas présumé initialement avec l'itinérance. C'est sûr que Gatineau, il y a une longue histoire de l'itinérance, mais Val-d'Or, c'était moins le cas. Puis comme Rivière-du-Loup, il y en a maintenant. C'était pas le cas il y a quelques années à peine, là. C'est tout ça qu'on voit apparaître, là. Voilà. Puis dans la région de Rivière-du-Loup, là, moi, je trouve qu'il y a des beaux dossiers. D'abord, tous les projets d'éoliennes qui ont été annoncés en 2023, mais aussi en 2024 encore. Même le préfet de la MRC qui a gagné un prix là, parce qu'il a mis en valeur, il a défendu les énergies renouvelables. Là, donc, c'est pas rien. C'est signe que la région a à cœur le développement éolien. C'est un dossier qui court depuis trop d'années, Kevin, là, mais j'ai pas le choix de le mettre encore en 2024. C'est le traversier.
Oui.
On devrait avoir peut-être, possiblement, une réponse.
Jeudi.
Donc là, c'est ça, faut le mettre en 2024. Puis moi, je souhaite là, à la région que ça se règle en 2024. Faut pas traîner ça en 2025.
Non, je le souhaite
au gouvernement du Québec aussi. si ça traverse en 2025, là...
Souhaite-moi pas ça.
Oui, puis je souhaite pas ça non plus à la députée, là. Tu sais, je veux dire, c'est un dossier qui doit se régler cette semaine. Là. Je vais suivre ça de près, puis on en reparlera au début janvier. Kevin, par exemple, on n'aura pas le choix d'en reparler en 2025.
Non, on n'aura pas le choix, mais au moins, si on peut en parler en disant que c'est réglé, ça sera au moins ça de fait, là.
Voilà. Fait que ça fait pas mal le tour, là. Tu sais, il y a plein de choses, j'aurais pu dire, au niveau international, c'est passé énormément d'affaires aussi. Très importante comme la libération de la Syrie, tu sais, les guerres qui se poursuivent, l'instabilité dans le gouvernement français. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité.
Le retour de Donald Trump.
Retour de Donald Trump, tout à fait. J'en ai parlé brièvement avec Justin Trudeau tantôt, mais effectivement, on constate de l'instabilité, puis ça va avoir une répercussion en 2025, c'est clair. Puis avec tout ce qu'on vit ici aussi, là, puis même juste Nordvolt, c'est une situation internationale. Là. C'est pas seulement qu'au Québec, c'est que nous, on a choisi d'investir là. Mais c'est une situation, il y a un contexte international qui explique tout ça. Donc, ça va être à surveiller en 2025, sans aucun doute.
Très intéressant. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci. Ben, de joyeuses fêtes à tous les auditeurs. Bon début d'année 2025 et on se retrouve en janvier là, pour la suite.
Début janvier. Salut, Marie-Ève.
OK, bye.
Joyeuses fêtes. Bye-bye. Donc, Marie-Ève Proulx, qui ne sera pas là la semaine prochaine, lundi, mais parce que nous, on sera là, mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas. Donc, on aura l'occasion de la réentendre en ondes quelque part en 2025. On va faire la pause dans 2 minutes 30. Les nouvelles Cogeco qui vous seront présentées.
Ici Bernard Généreux, votre député fédéral de Montmagny-Lévis-Cabrasco-Rivière-du-Loup. Joyeux Noël et bonne année 2025. Je vous remercie de toute votre confiance et votre support durant toute cette dernière année. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes.
BernardGénéreux.ca.
C'est effrayant, ça sort plus par en avant. Le facteur peut plus passer, si l'été peut arriver. Les hivers sous zéro, ça me fait peur aux dégâts d'eau. Je vous dis que je guette Calinette, puis que je garde son numéro. Si jamais que les tuyaux pètent.
La traverse Rivière-du-Loup Saint-Siméon est en service jusqu'au 2 janvier 2025. Voyagez à bord du NM Trans-Saint-Laurent, un navire qui vous offre plusieurs services, dont un ascenseur, une salle de jeu, une boutique souvenir et un comptoir lunch. Traverser le fleuve d'une façon unique et sécuritaire. Capacité de 100 véhicules et de 400 passagers. Pour information sur les heures de départ, composez le 418-862-5094 ou visitez traverserdl.com. Bienvenue à bord.
Au IGA Extra de Rivière-du-Loup, trouvez tout ce dont vous avez besoin pour vous gâter à l'occasion des fêtes. En plus d'une grande variété de charcuteries et de fromages pour la raclette, de gâteaux et de bûches de Noël, offrez-vous des produits de la mer haut de gamme. Profitez aussi du comptoir sushi, d'un service personnalisé de coupe de viande et de mets préparés, ainsi que d'une vaste sélection de vins et bières de microbrasserie. IGA Extra de Rivière-du-Loup, tout ce qu'il vous faut pour être bien chez vous.
Nous désirons informer la population.